I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je vois, j'ai créé 10 magazines et j'ai jamais cédé aux pressions des éditeurs. Par exemple, quand je vais aux soirées de lancement, je joue pas au jeu pour pas me faire influencer par les petits fours. Et puis, quand j'accepte des goodies, je dis même pas merci. Ouais, c'est un principe.
Ah, les relations entre les éditeurs de jeux vidéo et les journalistes, la pression des fabricants sur les éditeurs de journaux. Dans cet épisode mêlant sérieux et humour, Usul, qui animait une rubrique vidéo sur jeuxvideo.com, abordait cette question. Et à travers elle, la question du modèle économique de la presse jeux vidéo, une presse qui en 40 ans en a vu des vertes et des pas mûres. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Je poursuis cette série vidéoludique avec cette question : la presse jeux vidéo a-t-elle encore un avenir ?
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Anne, ma sœur Anne, qu'allons-nous devenir ?
Sœur Anne, je ne sais pas, mais au début des années 2000, c'est Internet que les éditeurs de magazines de jeux vidéo n'ont pas vu venir. Le secteur connaissait alors un âge d'or avec pas moins de 37 magazines différents. Il fallait faire de la place chez le marchand de journaux. Je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque je devais prendre le train, j'arrivais toujours une demi-heure avant à la gare pour pouvoir faire du lèche-vitrine et acheter jeux vidéo magazines, joystick ou encore console plus pour me tenir informé de l'actualité. Un plaisir devenu de plus en plus rare. Et pas seulement parce que je ne prends quasiment plus le train. Pourtant, les magazines de jeux vidéo font de la résistance. Pour combien de temps encore ? Internet a mis fin à cet âge d'or, mais ce n'est pas le seul responsable. C'est ce que j'ai compris en lisant Press Start. 40 ans de magazines de jeux vidéo en France, une mine d'informations bourrée d'anecdotes depuis la naissance de Tilt jusqu'à la renaissance de Jeux Vidéo Mag, en passant par l'épopée Joystick ou futur, 350 pages à dévorer aux éditions Omake Books. Yves Brehm de l'association Emo 5 et l'universitaire Boris Kriwicki ont rencontré des dizaines d'acteurs de la presse jeux vidéo pour raconter l'histoire de ces journaux pas comme les autres, écrits par des journalistes pas comme les autres. Bonjour Boris Kriwicki.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes assistant à l'Université de Liège en Belgique, dans le département Médias, Culture et Communication. Vous avez écrit Press Start avec Yves Brehm. Pourquoi d'abord vous intéresser à cette presse, souvent regardée de haut par la profession ?
Principalement pour ça, justement, parce qu'elle est regardée de haut et que nous, on considérait que ces magazines avaient une grande importance, non seulement une importance économique, bien sûr, on le raconte dans le livre, il y avait des tirages qui étaient extrêmement impressionnant, mais aussi une importance culturelle, parce que à travers cette presse, c'est des centaines de milliers de joueurs et joueuses qui ont rêvé, qui ont pu s'informer autour du jeu vidéo qui n'était pas relayé à cette époque par Internet. Donc voilà, il y a une double importance. Et moi, étant chercheur universitaire, voyant que cette presse était très décriée par certains confrères et consoeurs, j'ai voulu prendre le contre-pied et montrer qu'il y avait plein de choses à en retirer une fois qu'on l'analyse avec un certain sérieux.
Alors, Press Start, ça se lit comme un roman. Il y a des anecdotes, des personnages ou en couleur, des rebondissements, des trahisons. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on raconte cette histoire de la presse jeux vidéo à partir de trois exemples symboliques de leur époque. Alors, au départ, il y a un magazine qui va véritablement marquer les esprits en France, c'est Tilt.
Oui, il marque les esprits avant tout parce qu'il est le premier. Hein. Il arrive à la rentrée 82. Et Tilt, ce qui est surprenant avec le recul, c'est qu'il n'est pas du tout écrit par des passionnés, comme ça va être le cas après des autres magazines qu'on va évoquer, qui ont fait la grande époque, ce qu'on appelle l'âge d'or dans le livre. Tilt, il est écrit par des gens qui ont un profil de rédacteur, qui viennent de milieux très différents, parfois des médecins, parfois des professeurs, etc. Et que les éditions mondiales, une grande maison d'édition, embauchent pour écrire à propos de ce sujet naissant, du jeu électronique. Alors, Tilt ne parle pas que des jeux vidéo, il parle aussi des, voilà, des jeux de société électronique, du flipper, hein, le nom Tilt fait référence au flipper, et on voit bien à ce moment-là que le jeu vidéo est encore balbutiant. Les micro-ordinateurs ne servent pas que à jouer, ils sont aussi des outils de travail, de découverte, on peut programmer de la musique avec, faire des dessins, etc. Donc le jeu vidéo est vraiment une activité parmi d'autres, et ça se ressent dans le magazine, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on le regarde avec une perception très nostalgique, puisque c'était le premier et qu'il a ouvert la voie à de nombreux titres par la suite.
Ce qu'on comprend, c'est que des gens sont arrivés un petit peu par hasard dans ce milieu. Enfin, ils sont arrivés surtout parce qu'ils avaient quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas.
Ben oui, en fait, oui, ça s'est fait un petit peu par hasard au début. C'était des gens qui étaient disponibles par la rédaction et qui étaient quand même intéressés à ces sujets-là, sensibilisés. Mais voilà, c'était pas des férus de jeux vidéo. Comme plus tard, où on avait des rédacteurs très très jeunes qui pensaient, dormaient, vivaient jeux vidéo jour et nuit. Et par la suite, bah, les gens qui arrivent dans cette presse-là sont avant tout des gens qui ont accès aux jeux vidéo. Parfois même avec des copies pirates, ça arrive, il y a des rédacteurs qui entraient tout simplement parce qu'ils avaient tous les jeux à leur disposition et qu'à l'époque, le marché du jeu vidéo était beaucoup moins structuré. Il n'y avait pas tous les distributeurs bien établis qu'on a maintenant. Et les copies pirates étaient une des façons d'accéder à la matière première que sont les jeux. Donc voilà, c'est vrai qu'au départ, ça se faisait un peu par hasard. Et puis petit à petit, ça commence à se structurer autour de personnes qui sont vraiment impliquées et proches de ce sujet-là.
Et surtout, ils avaient un micro-ordinateur, ce qui était quand même assez rare.
Effectivement, oui, à l'époque, la micro-informatique et ce genre d'équipement n'était pas aussi démocratisé que les PC aujourd'hui ou les consoles que de nombreux foyers accueillent. Alors il y a quand même eu le plan informatique pour tous en France, autour de 85, il me semble, qui a participé à ce que les foyers s'équipent de micro-ordinateurs, mais ça restait effectivement assez marginal. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Tilt se diversifie et touche à tous les types d'électronique.
Le succès était immédiat, ça a surpris tout le monde ?
Non, Tilt fonctionnait bien, mais on ne parle pas d'un succès éclatant à cette époque-là. De mémoire, alors on a les chiffres détaillés dans le livre, mais on est autour des 100 000 exemplaires, ce qui est aujourd'hui un beau score, mais qui à l'époque était relativement standard pour une grande maison d'édition comme les Éditions Mondiales. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que Tilt a mis beaucoup de temps à lancer des émules, en fait. Il faut attendre 1987 pour avoir un autre vrai magazine qui va être orienté jeux vidéo Génération 4. Donc, 5 ans plus tard, quoi. Et ça reste, en fait, assez timide jusqu'à l'orée des années 90, où, les consoles arrivent et un premier titre va faire le pari de parler des consoles. À l'époque, c'est vraiment un pari. C'est pas du tout acquis que les consoles vont devenir incontournables du grand public. Et donc, ce titre, Player One, va après ouvrir la voie à toute une série d'autres. Certains vont se spécialiser autour de Sega et Nintendo, avec Mega Force, Banzai, des titres comme ça. D'autres vont être plus généralistes comme Console Plus et le marché va complètement éclater. Mais au départ, Tilt est assez seul dans son coin.
Pourquoi ça va mettre autant de temps à émerger ?
C'est une bonne question, mais parce que, comme je l'ai dit, le jeu vidéo de l'époque est assez balbutiant. C'est pas la seule pratique qui est centrée autour du micro-ordinateur et on peut utiliser les micro-ordinateurs pour toute une série d'autres activités. Et c'est vraiment avec l'arrivée des consoles qui sont des systèmes fermés et donc qu'on peut utiliser pour lire des jeux et point barre. On ne peut pas détourner leur activité ou alors vraiment en les piratant, en les bidouillant, etc. Mais ce que le grand public ne fait pas, là, on a des objets de jeu qui vont se mettre à cartonner et qui sont vraiment orientés consommateurs, puisque la seule possibilité avec ces objets-là, c'est jouer. Donc là, il y a une place pour les magazines pour faire que de la critique orientée consommateur, en s'inscrivant dans le cycle communicationnel de l'industrie, avec les news, les previews, les tests, des articles qui vont très être orientés autour de cette communication, de la sortie des projets, qui vont relayer énormément, critiquer aussi, mais donc c'est vraiment là que l'explosion se fait et qu'il y a un vrai appel d'air pour toute une série de presse et une demande du public.
Je disais, il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre. En termes journalistiques, ça donnait l'impression d'un joyeux bazar parfois.
Oui, alors dans la foulée de cet âge d'or que je viens d'introduire, Il y a toute une série de rédacteurs très jeunes qui arrivent, qui commencent dans le milieu à 15-16 ans, hein, alors qu'ils sont encore mineurs. Et puis, voilà, il y a un humour assez potache, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se transmet dans les pages et qui se vérifie aussi à la rédaction. Effectivement, les personnes qui travaillaient dans la presse jeux vidéo à l'époque bénéficiaient d'une très grande liberté, y compris au sein d'éditeurs de renom, comme Hachette, qui avec sa filiale Hachette Disney Press va éditer Joystick, qu'il a repris à une autre maison d'édition. Et là, au sein de Hachette, qui est pourtant une très grande société, ben, les gens qui écrivent Joystick, Joypad, et puis ensuite le PlayStation Magazine, ont vraiment le loisir de faire les fous dans leur rédaction. Il y a toute une série d'anecdotes qu'on raconte dans le livre, où ben, voilà, ils vont faire des jeux dans les ascenseurs, des courses à cheval sur des chaises de bureau dans les couloirs. Ils vont prendre des photos complètement délirantes pour les trombinoscopes de leur magazine et se déguiser en schtroumpf ou je ne sais quoi. Donc effectivement, oui, il y avait une sacrée ambiance à cette époque-là, dans les années 90.
En 1990, on compte 8 magazines de jeux vidéo en France et un nouvel acteur arrive, vous en avez déjà un petit peu parlé, il s'appelle Joystick. C'est vraiment le début de l'âge d'or ?
Oui, on peut marquer ça par là. Bon, Joystick n'est pas le seul acteur, il y en a d'autres. Il y a Console Plus qui est un petit frère de Tilt qu'on a évoqué avant. Mais Joystick est emblématique parce qu'il a duré très longtemps, jusqu'en 2012, que c'était un titre orienté PC. Et qui, voilà, il a surtout posé un ton assez presque satirique, en tout cas très humoristique, avec un humour très grinçant. C'est vrai, potache, comme je l'ai déjà évoqué, mais aussi une certaine irrévérence à l'égard de l'industrie, où on n'hésite pas à faire des couvertures un petit peu piquantes, à dire quand un jeu n'est pas satisfaisant. Et donc, en ça, Joystick a beaucoup marqué les esprits. On parle de l'esprit Joystick encore aujourd'hui dans certains titres actuels de la presse jeux vidéo, parce que les journalistes de cette revue ont vraiment su, avec leur plume, laisser un souvenir impérissable aux lecteurs et lectrices de l'époque. Et donc oui, là, on entre dans une nouvelle dimension éditoriale par rapport à Tilt, qui avait un ton plus généraliste, plus factuel et plus sage.
C'est aussi à ce moment-là que les gros éditeurs vont commencer à s'intéresser à ce marché ?
Oui, tout à fait. Progressivement, d'abord les gros éditeurs de presse, comme Hachette pour Joystick. On a Emap qui reprend Tilt, mais Tilt s'arrête assez vite. Mais par contre, Console Plus, son petit frère qui est orienté console et qui est plus grand public, fonctionne bien mieux. Il va pendant toute une période être le premier magazine de jeux vidéo en France en termes de vente. Il sera rattrapé ensuite par le PlayStation Magazine d'Hachette, qui va être très célèbre grâce à son CD de démo, qui va convaincre beaucoup d'acheteurs. Mais donc oui, là, on sent qu'il y a un réel engouement du public pour ce marché, qui est de moins en moins un marché de niche. Donc les éditeurs de presse s'y intéressent. Et en parallèle, les éditeurs de jeux vidéo prennent du galon et prennent beaucoup plus la main sur la communication vers l'extérieur et la collaboration avec la presse. Donc, ils commencent à vraiment institutionnaliser cette communication et à prendre beaucoup plus la main. Donc, les deux versants prennent de l'ampleur un peu de manière parallèle.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont assez drôles, hein. Il va y avoir une professionnalisation, là aussi, des relations presse des éditeurs. Vous racontez dans le livre l'exemple de cet attaché de presse qui avait envoyé les CD-ROM à des journalistes et le CD-ROM était agrafé sur le communiqué de presse. Autrement dit, il ne pouvait pas marcher. Justement, quelles sont les relations à ce moment-là entre la presse et les fabricants de consoles et de jeux vidéo ?
Il y a une espèce de bras de fer éternel qui se joue, en fait, parce que il y a une forme d'interdépendance, comme dans toute presse spécialisée. Les journalistes ont besoin de la matière première que leur fournit le milieu qu'ils couvrent. Et à l'inverse, l'industrie, le milieu, a besoin de la couverture par les journalistes pour que ces produits existent. Encore une fois, d'autant plus avant que Internet soit vraiment institutionnalisé en tant que canal de communication principal. Aujourd'hui, les éditeurs ont beaucoup moins besoin de la presse. Et donc, y a ce bras de fer, il y a cette interdépendance où on va négocier des couvertures, ils appellent ça les deals de couve, donc pour avoir en échange une exclue ou telle démo, donc les versions de démonstration qui permettent de découvrir les jeux en avant-première de manière partielle était un gros enjeu à l'époque, et donc il y a beaucoup de négociations autour de ça. Et puis alors, il y a parfois des contre-coups liés à des mauvaises notes, donc des mauvaises critiques, l'éditeur n'est pas content, l'attaché de presse doit décrocher son téléphone pour appeler le journaliste, râler, dire « non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des points en plus la prochaine fois ?» ou « est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une couverture en réparation ?» ou bien « voilà, si c'est comme ça, on ne diffusera plus de publicité dans vos pages. » Donc voilà, il y a un réel aller-retour entre les deux. Ils sont en contact permanent et parfois en tension. Mais chez les grands éditeurs comme Hachette, ben, on a cette protection d'être justement dans un grand groupe, d'avoir des autres publications comme le magazine féminin Elle, par exemple, qui tire à beaucoup plus d'exemplaires que les titres jeux vidéo. Et donc, le budget s'équilibre de cette façon-là, ce qui fait que les magazines jeux vidéo, en général, ne sont pas inquiétés par ces pressions financières.
En l'an 2000, on compte en France 37 magazines de jeux vidéo. Leur nombre a doublé en 6 ans. Durant cette période, va émerger un acteur qui va marquer le microcosme. Il s'appelle Future Publishing. Il va devenir incontournable.
Il va devenir incontournable parce que ça va être ce qu'on pourrait appeler dans le milieu de la presse un papivore, un véritable ogre qui va racheter progressivement tous les titres marquants du milieu. Future commence calmement hein, en tant qu'Edicorp Publication et alors donc en 92. Et là, il n'est qu'un éditeur parmi d'autres qui publie quelques titres orientés PC. Et effectivement, vers la fin des années 90 et début 2000, il va commencer à vraiment prendre de l'ampleur, à faire un rapprochement avec Future Publishing, qui est une marque britannique. Et petit à petit, va se développer Future France, qui est la déclinaison en France de cette marque britannique. Et leur stratégie va être d'essayer d'acquérir tous les grands titres iconiques. Et ils vont réussir. Ils vont racheter d'abord Joystick à Hachette avec Joypad et le PlayStation Magazine. Et puis, ils vont également racheter Console Plus à EMAP en 2005, tout en continuant à diffuser de nombreux nouveaux titres. Il y a énormément de nouveaux magazines qui sortent tous les ans. Et dans le tas, il y en a plusieurs qui périclitent, qui ne sont pas très pérennes. Mais voilà, la stratégie de Future, c'est d'inonder les kiosques purement et simplement et de jouer la carte de la concentration, d'avoir presque le monopole. Voilà, donc suite à ça, il y a certains journalistes qui quittent leur titre de référence. Hein, il y a une grande partie de l'équipe de Joystick, par exemple, qui, quand il va voir arriver Future, va complètement prendre la fuite, prendre leurs indemnités et lancer leur titre de leur côté, qui s'appelle Canard PC, qui va avoir ressuscité cet esprit Joystick et vraiment miser sur l'indépendance en créant leur propre société d'édition, etc. Le titre existe toujours aujourd'hui. Et Future, en parallèle, voilà, va complètement, progressivement rendre tous ces magazines un peu interchangeables et arrive ce qui devait arriver, avec en plus la montée d'Internet qui fait qu'il y a une crise de la presse papier de manière générale, ben, les titres se cannibalisent entre eux, de plus en plus s'arrêtent et Future va passer par différentes phases de redressement judiciaire, va changer de nom, va s'appeler Yellow Media, puis Merced à la fin et la liquidation judiciaire finale va être prononcée en novembre 2012.
Un nouvel outil va envahir l'Europe, Internet, créé par l'armée américaine, le Minitel version universelle. Rapide, mondial, peu cher et permet de mieux gérer son temps de travail.
Internet va effectivement beaucoup changer les choses. Et ce qui est intéressant, ce que vous racontez, c'est qu'au début, personne n'a vu la menace arriver.
Tout à fait, oui. Donc, je reviens à la fin des années 90, au début des années 2000. Et là, Internet est souvent vu, comme une espèce de terrain de niche, d'endroit où ça ne vaut pas la peine d'investir des ressources. Donc, quand les magazines ont un site Internet, c'est dans le meilleur des cas pour faire une espèce de produit d'appel redirigé vers les abonnements ou ce genre de choses. En tout cas, Internet ne va pas être intégré dans la stratégie à part entière du magazine. Et il y a une anecdote assez frappante, c'est que Joystick avait son site Internet, joystick.fr, qui fonctionnait très bien. Et Arnaud Lagardère a décidé de fermer ce site auquel il ne croyait pas. Il disait que Internet, c'était pas l'avenir et il a préféré allouer le budget qui lui était réservé à une chaîne télé qui émane de Paris Match, Match TV. Donc voilà, pour dire un peu que la plupart des grands dirigeants de l'époque n'y croyaient pas du tout. Et en interne, dans les rédactions, on restait fort attaché au Minitel, parce que historiquement, les lecteurs et lectrices ont été parmi les premiers dans la presse jeux vidéo à s'équiper de Minitel, parce qu'on avait accès à des services en plus, on pouvait aller consulter des astuces en ligne pour se débloquer dans les jeux, on pouvait interagir avec les journalistes par ce biais-là, etc. Et donc, alors qu'on a comparé avec les chiffres d'Internet, on voit que Internet s'installe progressivement en France, et le Minitel reste énormément présent dans les pages des magazines de jeux vidéo. Voilà, il reste attaché à ce service-là, ils y croient beaucoup.
Oui, surtout que c'est vrai que le Minitel a rapporté beaucoup d'argent au début, contrairement à Internet qui était avant tout une dépense. Il fallait se connecter, et généralement c'était payant. On avait le paiement sur la facture téléphonique. Hein. Ceux qui ont connu et qui ont eu leur facture à l'époque du Minitel s'en souviennent très bien, ça pouvait grimper parfois très vite. Entre 2000 et 2006, on voit que la diffusion de la presse jeux vidéo va chuter d'un tiers. C'est la fin d'une époque ?
C'est le début de la fin, je dirais. Voilà, c'est le moment où Futur, effectivement, a fait tous les grands rachats que j'ai évoqués. Et de cette inondation des kiosques et du fait que pour rationaliser les coûts, il y a plusieurs journalistes qui se retrouvent dans plusieurs titres conjointement du même éditeur, les magazines finissent par se ressembler un peu tous et les ventes s'en ressentent. Et il y a aussi Internet qu'on a évoqué avec des sites comme jeuxvideo.com qui est un véritable mastodonte qui va drainer une grande partie du lectorat, d'autant que on est alors en pleine explosion de la bulle Internet et la publicité en ligne rapporte à ce moment-là encore pas mal d'argent. Donc les sites Internet peuvent se permettre d'être gratuits et en vivent plutôt bien. Du coup, par effet de vase communicant, la presse papier, elle, a de moins en moins d'annonceurs, donc les magazines se font de plus en plus maigres en termes de pages, ils sont beaucoup moins généreux que dans les années 90, où on avait 150, 200, parfois 300 pages dans les numéros doubles de Noël, où on avait des démos offertes, parfois des jeux offerts. Là, il faut faire des économies, et donc les lecteurs et lectrices ne sont pas très contents de voir les magazines papier devenir moins généreux, et ça aussi, ça explique l'affaiblissement des ventes. Donc on est au début de la fin, et ça va aller de mal en pis, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, avec la liquidation judiciaire de Futur, on assiste vraiment à la fin d'une époque.
La fin d'une époque pour la presse jeux vidéo qui va laisser des plumes face à l'avancée d'Internet, à l'exception de quelques irréductibles comme Canard PC, mais aussi Jeux Vidéo Mag qui va échapper à la liquidation de Mercet, ex-Futur, qui n'en avait plus. Demain dans la story, avec l'un des repreneurs de Jeux Vidéo Mag et toujours avec Boris Kriwicki, je vais m'interroger sur ce qu'il reste de la presse jeux vidéo en France et la façon dont elle s'est adaptée à la révolution Internet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.